Cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 18 février 94.
La critique, tu vas te gérer. C'est-à-dire de ce que représente en nous l'alliance de l'intelligence avec la volonté. Ce n'est plus la volonté capable d'aimer en premier lieu, mais c'est la volonté qui aime et qui veut réaliser. Alors, il y a là déjà tout un aspect extrêmement important à bien voir. Toute efficacité provient d'un amour. ça, c'est la constatation au plan critique de ce que représente l'exigence du travail. C'est donc une œuvre qui relève de la volonté de l'homme, ayant pris conscience que le monde dans lequel il est un monde qui est capable d'être achevé. On peut dire, entre guillemets, le monde est en puissance obédientielle par rapport à l'homme pour devenir un monde humain. Mais il y a des choses qui ne peuvent pas être transformées. La lune, le soleil, c'est très curieux. Hein. Dans l'univers, il y a une partie que les anciens considéraient comme parfaite, parce que l'homme ne peut pas le transformer. Tous les corps célestes des anciens, c'est parce que justement, ces corps ne peuvent pas être modifiés. Ils s'échappent à l'homme. On ne transforme pas beaucoup la lune. On ne transforme pas beaucoup le soleil. On ne transforme pas beaucoup les planètes et les galaxies. Tandis que notre petit monde, notre tout petit monde, peut être transformé par l'homme. Et c'est pour ça que les anciens voyaient deux espèces de matière. C'est pas si bête, hein, vous avez suffi d'enlever leur point de vue un tout petit peu mythique pour comprendre cette constatation extrêmement nette qu'il y a une matière transformable par l'homme et il y a une matière non transformable. Voilà la grande différence. Les anciens disaient une matière corruptible, une matière non corruptible. Changeons. Et disons qu'il y a une matière que l'homme peut transformer. Le soleil, je peux capter les rayons du soleil et réchauffer ma soupe. Et chauffer un œuf. Ça a commencé comme ça. Je capte les rayons du soleil. Et puis petit à petit, j'ai étudié ça, j'ai vu qu'il y avait des forces extraordinaires, un potentiel étonnant qui est pour l'homme. Et ça, c'est très beau de voir ça. Comment l'homme progressivement capte cette matière, non pas en elle-même, mais selon ses effets. La lumière. Est-ce que l'homme peut capter la lumière? Comment l'homme peut-il capter la lumière? Capter la lumière, c'est quand même quelque chose. Voyez, l'artiste capte la lumière. Le peintre, il veut la capter à sa manière pour qu'elle soit plus agréable, pour qu'on en voit toute la beauté, pour qu'on en sente toute la beauté. Et le savant veut l'analyser et la capter à sa manière. Un ersatz de lumière, hein, notre électricité. C'est vrai. Pour arriver à tout modifier, tout transformer. C'est curieux. C'est ce besoin de capter et de transformer. Capter les forces qui me dépassent. Des corps célestes. Il y a quelque chose qui demeure, vous savez. Ce que les anciens disaient. La lumière, je la transforme pas, je peux pas, elle me dépasse. Mais je l'oriente, je donne des déviations pour essayer de la capter un tout petit peu. Je sais qu'elle a une puissance extraordinaire qui dépasse tout. Et puis, il y a la matière. Et vous voyez, la désagrégation de l'atome, arriver à cela, c'est d'essayer de capter ce qu'il y a de plus foncier comme capacité de transformation. Et on arrive à cela. On en est là aujourd'hui. L'homme est arrivé à utiliser l'univers d'une façon telle qu'on se demande à un moment donné, et alors ça c'est un problème critique, est-ce qu'il coopère avec la nature ou est-ce qu'il la désagrège? Et alors là, le problème critique extrêmement important transformer la matière, c'est la désagréger. Est-ce que le travail demeure encore un travail quand je désagrège? Dans la nature, il y a des transformations qui font bien un cycle. Fondamentalement, quand je regarde les éléments, je vois qu'il y a un cycle fondamental entre le feu, l'eau, l'air, la terre. Ce que tous les premiers philosophes ont saisi. Et je capte cela, je touche cela. Mais quand j'arrive à supprimer ce cycle, je fais quelque chose qui ne peut plus être désagrégé, qui ne peut plus se corrompre. À un moment donné, à faire que le cycle naturel, il y a une déviation. On arrive à faire des effets qui échappent à la corruption. Tu vois, qui semblent échapper à la corruption. Qui échappent à la connaissance que nous pouvons avoir intime de ces matières. Qui sont comme incorruptibles. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, on ne sort pas du cycle de la nature, puisque notre monde est corruptible? Est-ce qu'on ne veut pas faire quelque chose d'incorruptible à partir du corruptible? Vous voyez, alors, est-ce que, à ce moment-là, est-ce que c'est encore du travail? Ou est-ce que c'est l'homme qui, dans son exaltation, orgueilleuse, veut imprimer à la matière quelque chose propre à l'esprit. Et en faisant ça, on arrive à confondre l'esprit et la matière. Il y a là un problème extrêmement intéressant de savoir jusqu'où va la coopération et jusqu'où va l'exploitation. Je crois que quand on fait sortir du cycle de la nature, on exploite. On met des éléments, on met des effets hors du circuit de la nature. Je crois que c'est la première constatation critique. Est-ce que c'est encore vrai? Puisque la critique cherche la vérité. Quelle est la vérité dans le fait géré? Jusqu'où va la vérité me fatiguer? Est-ce que là, nous ne touchons pas à une limite extrême qu'on n'avait encore jamais vue? Est-ce qu'à partir de là, comme certains disent, les savants, la notion de la matière d'Aristote n'est plus la même? J'ai entendu dire ça combien de fois chez des savants? Puisque nous touchons quelque chose qui est radical, nous faisons sortir un élément du cycle de la nature. Il n'est plus corruptible. Donc il ne se ramène plus aux éléments. Parce que les éléments sont corruptibles et agissent l'un sur l'autre. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, il faut une nouvelle notion de la matière? Alors, comprenez bien, si je saisis la matière au plan métaphysique, c'est-à-dire comme le fondement de tout conditionnement du devenir. La matière est pure puissance. Quand je dis qu'elle est pure puissance, elle est pure puissance par rapport aux qualités. En elle-même, elle n'est pas ce qui constitue l'être. La matière est infra par rapport à la constitution de l'être. Par le fait même, ce que je touche en réalisant cette sorte devenir, je demeure dans le devenir, mais j'atteins la limite du devenir. Puisque le devenir, c'est le corruptible qui appelle le corruptible, qui appelle le corruptible à l'infini. Or, là, je sors du corruptible. Et je sors du corruptible en façonnant ce corruptible de manière telle qu'il échappe au cycle naturel. Mais je reste dans le devenir. Ou est-ce que je pose dans le devenir une limite? Parce qu'une réalité sensible, physique, artificielle, qui échappe au devenir, alors n'est plus physique. Le physique, c'est la réalité qui se meut, qui est mue. Alors qu'est-ce que je dois dire à ce moment-là? C'est un problème critique, hein, et c'est le problème du Facere. Et c'est la première chose que je dois constater, puisque c'est de fait ce que nous voyons aujourd'hui. Est-ce que là nous touchons une limite? Situation limite du Facere. C'est un problème très délicat. Alors ce que je peux dire, c'est que je touche quelque chose échappe à la durée de l'homme. Est-ce que ça échappe vraiment au devenir? Je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire que ce que je fais, si ça échappe au devenir, si c'est comme incorruptible, ça ne retourne pas à la matière. Je peux dire que pour moi, de mémoire d'homme ou de mémoire d'âne, je ne vois pas. Et ce n'est pas à cause de ça que je peux dire que c'est éternel. Est-ce que je suis capable de fabriquer de l'éternel? Si j'étais capable de fabriquer de l'éternel, c'est vrai, je ferais sortir du devenir. Mais je ne fais pas quelque chose d'éternel. Je fais quelque chose qui échappe à la corruptibilité telle que je la constate. Et je demeure dans le devenir. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, de la matière. Je vois que la matière est totalement transformée par l'homme et que l'homme met dans ce devenir quelque chose de nouveau qui lui échappe. J'allais presque dire que c'est une confirmation de ce que dit Aristote sur la matière. Si la matière est pure puissance, elle peut très bien échapper au devenir physique constatable, à la corruptibilité du feu, de l'eau, de la matière. Je peux arriver à une sorte de séparation de la matière par rapport au sensible propre. La distinction que je fais entre sensible commun et sensible propre, que en mathématiques je découvre, se trouve comme réalisée dans ces effets extrêmes du facere humain. J'allais presque dire, ce sont des êtres réels. Ils ne sont pas intentionnels, ils sont artificiels, mais ils sont réels. Ils échappent au conditionnement du monde physique, tel que je le vois habituellement, et qui n'échappe pas à la matière. Ça reste des êtres matériels. Et que quand je dis que la matière est pure puissance, c'est une réalisation que je ne pouvais pas connaître avant, que je connais maintenant, et qui confirme que la matière est pure puissance. réalisation d'un être mathématique qui échappe au sensible propre. L'être mathématique n'échappe pas au divisible. Mais l'être mathématique échappe au sensible propre. C'est ça qui est très curieux. Je suis en face d'un monstre physique réalisé par l'homme. Mais c'est un peu monstrueux. Alors, est-ce que c'est le signe ? Ça, c'est la question et je crois qu'on ne peut pas y répondre au point de vue critique. Est-ce que c'est le signe que l'homme a été trop loin ? Il réalise quelque chose qui dépasse notre monde physique. Et donc, d'une certaine manière, n'est plus utilisable. Seul un jugement de sagesse pourra répondre. Mais en critique, je ne peux poser le problème. Oui. Autrement dit, je le prends d'une autre manière pour que vous compreniez bien, parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant au point de vue critique. C'est toujours très intéressant les cas extrêmes, c'est bon, au point de vue philosophique. Parce que ça nous fait découvrir quelque chose qu'on n'avait pas encore découvert. Alors c'est vrai que ça nous pose un problème. Le travail est dans le devenir. Tout le travail, c'est la transformation de la matière. Et la transformation de la matière à l'égard de deux contraires. Deux contraires qui sont des qualités. Là, le résultat fait que je touche quelque chose qui reste sensible. Mais qui échappe au devenir, à la corruptibilité, à une corruptibilité que je peux mesurer, à une corruptibilité qui est à dimension humaine. Mais j'atteins un être qui reste sensible, qui, d'une certaine manière, dans mon monde physique, est au-delà de ce monde physique, normal. C'est l'aspect artificiel lié à la matière qui fait que je suis en face d'une réalité qui semble incorruptible, en apparence incorruptible, voilà ce que je veux dire, en apparence incorruptible, mais qui reste et qui fait partie de notre monde. Il n'est pas éternel. Et il demeure comme la limite de ce que l'homme peut réaliser, parce que d'une certaine manière, ce n'est plus utilisable. C'est quelque chose qui échappe. Alors c'est un signe que le travail de l'homme a été au-delà de sa finalité, puisque je travaille pour que l'univers soit plus utilisable. Je travaille pour que l'univers soit plus proche de l'homme. Alors là, j'aboutis à quelque chose de monstrueux. Je crois que j'aboutis à un monstre. Un monstre non pas humain, mais un monstre physique. Qu'est-ce que ça signifie ? Point d'interrogation. Est-ce que la sagesse pourra le dire ? Je le dis pas maintenant parce que je suis en critique. Et je constate cette limite. Alors je reviens au travail naturel, normal, où l'homme transforme l'univers pour qu'il soit plus proche de l'homme et plus utilisable par l'homme. Plus utilisable jusqu'à l'aspect de la jouissance artistique, esthétique. J'ai quelque chose de très beau devant moi. C'est une transformation de la nature par l'artiste. Et j'en jouis plus que de la réalité. Que de la réalité physique. Quand je transforme l'univers pour une nourriture plus agréable que que ce que donnent les fruits naturels, ou le lait de la vache, ou de la brebis. Quand je fais un fromage, quand je fais quelque chose qui est au-dessus de la réalité habituelle, je fais toujours un super par rapport à la nature, quelque chose qui dépasse. Donc je rends le monde physique plus utilisable, plus agréable à l'homme, plus proche de lui. Et tout le travail est fait pour ça. Ce travail a donc des dimensions différentes. Mais il est toujours le travail. Il a des dimensions différentes parce que je peux faire quelque chose d'utilisable pour la nourriture. Je peux faire quelque chose d'utilisable pour la vision, pour l'ouïe, qui m'est agréable. Donc c'est ou utile ou agréable. Et qui peut être agréable jusqu'à l'intelligence. Quelque chose de beau. Alors, je vois tout de suite que c'est ou l'aspect de la beauté ou l'aspect de l'utilité. Et je crois que c'est les deux grandes finalités. Puisque quand j'aboutis à quelque chose qui n'est plus ce monde, du moins qui échappe à la corruptibilité de ce monde, ce n'est plus utilisable. Je peux dire que ce travail est commandé d'une part par une idée en vue d'une œuvre agréable, d'une œuvre belle, ou le travail est commandé par une idée en vue d'une œuvre bonne, agréable à manger. Une œuvre qui me plaît au point de vue du goût, au point de vue de l'alimentation, ou une œuvre qui me plaît par rapport à la vision, par rapport à l'audition, par rapport au toucher. Une œuvre agréable par rapport au goût. L'art culinaire. Qui fait que, en plus de la nourriture, il y a quelque chose d'agréable. Alors, je vois que toute l'œuvre du travail est commandée par une idée. Et l'idée, c'est la subjectivité transcendantale. C'est curieux que Kant est vrai au niveau du travail. Le travail est commandé par une idée. Le travail est commandé par une subjectivité transcendantale. Et cette subjectivité transcendantale se traduit par une idée. Alors, c'est ici. Je peux dire, j'ai une idée d'une œuvre agréable à la vue, ça me plaît. Qu'est-ce que c'est que le beau plagiat qui plaît à la vue? Visu. réalisation d'une œuvre qui n'est plus corruptible, qui est en dehors du cycle de la nature. C'est encore l'homme qui en est la mesure, oui, par sa science, par sa connaissance technique. Mais ce n'est peut-être pas ce qu'il avait cherché. Il a constaté ça. Est-ce qu'il a cherché de faire une œuvre qui soit en dehors du cycle de la nature? C'est point d'interrogation. Mais si c'est une œuvre en dehors de l'idéa, oui, c'est l'œuvre du hasard. C'est un monstre. Un monstre réalisé par l'homme. Puisque le monstre, c'est ce qui est en dehors de l'intention, de la nature ou de l'art. Et on voit que dans l'art, très facilement, on fait des choses monstrueuses. Mais on peut, évidemment, dans l'art, rechercher le monstre. C'est-à-dire essayer de réaliser quelque chose que je n'avais pas prévu et que je ne pouvais pas prévoir. Alors c'est une chose monstrueuse. Mais dans une chose monstrueuse, il n'y a plus de vérité. C'est le hasard qui commande, donc il n'y a plus de vérité. Je suis en face de quelque chose qui me dépasse, que je reconnais venant de moi. Il y a la marque humaine, mais il y a une marque humaine fausse. Elle n'est plus dans l'intention de l'homme. Elle n'est plus dans l'intention de la sagesse de Dieu. Et ça, je crois que c'est très important de voir quelque chose qui échappe à la vérité, qui n'est plus vrai. Et que l'homme reconnaît que c'est lui qui en est la source. Dans une œuvre qui est selon son intention et qui est mesurée par son idéa, alors je suis vraiment en face d'une œuvre d'art. Alors c'est là où il faut essayer de préciser cet idéa qui mesure mon activité, étant vue de réaliser une œuvre agréable à voir. C'est-à-dire que l'idéa que j'ai en moi est cause exemplaire de l'œuvre réalisée. Si cette œuvre réalisée est harmonieuse, si elle plaît à mon regard, à ma vue, s'il est proportionné et réalise cette joie que j'ai de la voir, je dis qu'elle est belle. La beauté artistique est quelque chose qui échappe à ce qui est rigoureusement le fruit du travail, et qui, grâce à la réalisation dans telle ou telle matière, apparaît comme belle, comme au-delà de ce que je fais. Il y a toujours dans l'œuvre artistique quelque chose qui est plus que ce que je fais, puisque la matière est précisément ce qui est présupposé au travail. Et la matière n'est pas faite par moi. Et c'est le lien entre cette idée que j'ai et qui commande mon travail, et qui détermine mon travail, et la matière, qui fait qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Quelque chose d'original qui apparaît, que je peux considérer comme quelque chose de beau, considéré comme quelque chose d'utile. Parce que ce sera ou le beau ou l'utilité. Alors, je regarde en premier lieu ce qui est beau, puisque réaliser une œuvre belle est plus que réaliser une œuvre utile. Est-ce que je peux dire ça ? Ou est-ce que je dois dire que réaliser une œuvre utile est plus qu'une œuvre belle ? Point de vue critique. C'est important, parce qu'il y a deux pistes. Il y en a deux, il y a un ordre. Laquelle doit faire passer devant ? Poisson. Tandis que l'œuvre belle, agréable, est pour l'épanouissement de mon intelligence liée à la réalisation. Mon intelligence qui construit quelque chose, qui fait quelque chose. Il faut d'abord la boisson.